À quoi servent actuellement les intellectuels dans les grandes transformations qui sont déjà commencées?
Je pense que leur rôle est à la fois mené, et puis il a tout de même une certaine importance. Il me semble que un des caractères du processus auquel nous assistons actuellement est celui-ci. Il ne s'agit aucunement de s'emparer du pouvoir violemment par une sorte de coup d'État à la Blanqui. Il ne s'agit pas non plus de l'acquérir sagement et bourgeoisement dans le parlementarisme, comme le souhaitent les communistes. Il s'agit pour l'instant, de permettre une prise de pouvoir en commençant par la cassure, la rupture de toutes les connexions par lesquelles le pouvoir est actuellement assuré. Tout ce système de communication qui fait que le pouvoir qui est détenu en réalité par le grand capital s'impose finalement à la masse des gens. Toutes ces communications, elles sont en grande partie entre les mains de la petite bourgeoisie. Le rôle que la petite bourgeoisie s'est vue confier depuis le XVIIIe siècle par la grande bourgeoisie capitaliste, ça a été précisément d'être le relais et l'instrument de transmission de ce pouvoir capitaliste. Eh bien, puisque la petite bourgeoisie est là, à ces relais de transmission du pouvoir, le rôle que le petit bourgeois veut jouer, le rôle que l'intellectuel petit bourgeois veut jouer dans l'université, à la radio, à la télévision, etc., c'est précisément d'empêcher l'exercice de ce pouvoir, de le brouiller, de casser de rompre les connexions, de produire...
De saboter l'État.
Oui, bien sûr.
Est-ce que c'est ce que vous, les intellectuels français, vous faites actuellement?
Vous,
par exemple, au Collège de France, qui occupait un poste de prestige, qui avait été nommé là par des autorités gouvernementales.
Ah, j'étais élu.
Ah, vous avez été élu par vos confrères?
Oh, oui, on est élu par ses confrères.
Mais subventionné par l'État?
On est subventionné par l'État.
Et l'État vous donne l'entière liberté de dire ce que vous nous dites actuellement?
Eh bien là, alors, vous posez un problème qui est en effet important. Vous dites, l'État vous paie, et voilà que vous revendiquez le droit de saboter l'État. Mais quand vous employez l'État dans ces deux phrases, je ne pense pas que ce soit exactement dans le même sens. Quand je dis saboter l'État, c'est bien en effet rendre possible, permettre la prise de pouvoir par les masses. Mais quand vous me dites l'État me paie, quel est donc cet État qui me paie? C'est-à-dire, quel est donc cette institution qui me donne cet argent, sinon précisément celle qui produit la richesse, c'est-à-dire le peuple.
Là, nous pouvons dire ce que nous voulons dire ici en toute liberté. Nous sommes, à l'Université de Paris 8, à l'antenne de Bout de Souffle, qui est aussi alternatif comme l'Université de Paris 8. Et là, nous pouvons donc dire ce que nous pensons, et tout ce que nous disons, évidemment, peut être discuté, critiqué, et nous sommes ouverts à tout cela, mais nous sommes quand même sur une fréquence là, ou sur un plan qui est un foyer de résistance minoritaire, hein. Et donc là on peut, il nous autorise à survivre à ce niveau là, mais que cela devienne un peu plus important, je crois que ça serait intolérable.
À Bout de Souffle. Entretien avec Plinio Walder Prado, philosophe, au département de philosophie de l'université Paris 8, Vincennes-Saint-Denis. À propos de la publication aux éditions Ligne du principe d'université. Plinio Walder Prado, bonjour. Et merci de nous accueillir ici au département de philosophie de l'université Paris 8, Vincennes-Saint-Denis. Donc si vous nous accueillez ici au département de philosophie, c'est parce que vous êtes professeur de philosophie dans cette même université et que vous venez de publier un texte bref mais offensif qui s'intitule « Le principe d'université ». Je me permettrai de qualifier ce texte de circonstance, comme pourraient l'être certains textes d'Alain Badiou. Un texte de circonstance qui s'inscrit dans un contexte, celui de l'application du processus de Bologne à l'université, c'est-à-dire des réformes telles que le LMD, LRU, masterisation et réforme du statut des enseignants-chercheurs. Selon vous, la vérité de ces réformes est en fait dans l'extension de l'usage comptable du temps à l'université. Et vous nous dites que ce temps consacré au questionnement et à l'écoute de soi et de l'autre, voilà ce que tend à interdire précisément le surcroît de mobilisation générale et accélérée que le pouvoir politique, administratif et économique entend imposer aujourd'hui à tout un chacun. Sur fond de compétition mondiale, enrôlant encore davantage l'existence de chacun dans la loi de l'échange marchande et de l'usage comptable du temps. Voilà donc, selon vous, la vérité de ces réformes et du processus de Bologne. Sur cette question de la dépense productive, d'un temps utilitaire, il faudrait aussi peut-être s'arrêter, ce n'est pas l'objet du texte, mais pourtant, vu que nous sommes en période électorale, sur l'utilisation du mot « utilité » en ce moment. Il y a un parti qui appelle à voter utile, quand un autre parti appelle à riposter utile. Nous verrons donc en tout cas les conséquences à l'endroit même du principe d'université de ces réformes, et c'est, il me semble, l'objet du texte. Ce texte, donc, qui s'inscrit dans un contexte, s'inscrit aussi dans une filiation, filiation qui est d'abord le texte fondateur de l'université de Bologne en 1088, puis aussi le texte fondateur de l'université des Lumières à Berlin en 1810, puis aussi les textes fondateurs de l'université de Vincennes, celle-ci, dans les années 60, et enfin, mais il y aurait d'autres textes bien entendu, particulièrement le texte de Derrida, l'université sans condition, publié dans les années 90. Ce texte s'inscrit également dans un moment d'intense publication sur le sujet. Par exemple, la Revue internationale des livres et des idées, qui a publié un dossier spécial sur l'université. C'est un dossier composé par Yves Citon, qui, d'après lui, et d'après les lectures qu'il a fait, des lectures de textes publiés aux États-Unis, qui d'après lui, ce que l'université française est en train de vivre aujourd'hui, c'est exactement ce que l'université américaine a vécu dans les années 80. Et que si l'université française en est à ce point, c'est que, un peu comme l'université américaine, elle n'a pas su défendre l'égalité comme principe fondateur de toute justice sociale, qu'elle n'a pas su soutenir l'humanisme radical, et qu'enfin, que la classe moyenne a rejeté la pensée et la politique qui lui a permis de se constituer comme classe. Aujourd'hui, son seul outil d'émancipation, qui est l'université, cette classe moyenne semble être torpillée. Il faudrait aussi citer un dossier qui va sortir sur la revue Multitude, sur les universités, et un dossier qui est sorti sur la revue Mouvement. Vous me montrez également la revue du MOS, et qui sort un dossier qui s'intitule « L'université en crise, mort ou résurrection », sortie à la découverte. Plus largement, il faudrait peut-être aussi inscrire votre texte, le rapprocher en tout cas d'un texte qui s'intitule « L'insurrection qui vient ». Car il faudrait préciser que ce texte, le principe d'université, connaît le même mode de diffusion que l'insurrection qui vient. Le principe d'université est en accès libre sur le site de la revue Ligne. Il est édité par la revue Ligne. Il est en diffusion en accès libre. Ce qui fait signe vers une urgence. Et de la même manière que l'insurrection qui vient est en accès libre sur le site des éditions La Fabrique. Un autre rapprochement est également l'appel à la désobéissance civile du texte que vous publiez et également cet appel à la désobéissance civile de l'insurrection qui vient. Cependant, il faudrait peut-être faire une précision sur cet appel à la désobéissance civile. Il ne s'agit pas uniquement de désobéir à telle ou telle loi parce qu'elle serait uniquement néfaste. Vous précisez que cette loi, ou ces lois en tout cas, remettent en cause la condition de la critique, certes. Mais la désobéissance également, dans la mesure où nous ne reconnaissons plus ce gouvernement comme légitime parce que, ayant abusé de méthodes clairement antidémocratiques pour imposer sa loi ou ses lois, refus du dialogue, du débat et mensonge. Cela dit, donc, les discussions sur les réformes de l'université ont été impossibles. Selon vous, il n'y a pas eu de débat. Je voudrais peut-être citer un extrait de votre texte sur la violation des droits fondamentaux, que cette violation se vérifie doublement dans le présent contexte de la réforme sur ladite autonomie des universités, car celle-ci ne s'attaque pas seulement au principe d'espace public, de discussion et de délibération à l'intérieur de l'université, en le subordonnant aux finalités de la compétition économique et de l'impératif de rendement. Elle s'attaque à ce principe à l'échelle générale de la société, aussi de l'ensemble des citoyens, de la dite opinion publique, en y organisant par tous les moyens le passage en force de sa réforme. Les décideurs ont opté de concert pour le verrouillage général de l'espace public en choisissant de soustraire à la discussion, y compris par les moyens les plus ignobles, une réforme qui manifestement ne saurait résister à une confrontation publique d'arguments. C'est donc cet accès à l'espace public qui semble avoir été refusé ou interdit par le gouvernement. Votre texte définit d'une certaine manière le principe d'université en 5 points. 5 points qui réaffirment ce que doit être l'université, ses conditions de possibilité, mais aussi 5 points pour réinventer une université. Très rapidement, ces 5 points, l'indépendance inconditionnelle ou la condition de la critique, l'exercice libre et public de la pensée, réinvention de l'université ou l'agitation critique comme responsabilité envers l'avenir, se donner le temps de désapprendre d'une certaine manière la déconstruction ou la dépense improductive, et enfin le principe d'université en principe de résistance, ce que peut-être Yves Citon appelle l'espace public oppositionnel. Alors, ce que je vous propose, c'est de suivre la construction de ce texte sur chaque point, mais avant, peut-être auriez-vous des choses à rajouter sur cette introduction.
Tout d'abord, merci beaucoup. C'est une très bonne lecture, c'est une très bonne question. Il y a beaucoup de choses aussi. Je commencerai peut-être par une remarque concernant l'édition. Donc, c'est un texte qui est disponible en accès libre sur l'édition Ligne, les maisons d'édition Ligne, dont une partie, c'est la revue qui s'appelle Ligne. Mais une version imprimée doit sortir à la rentrée, vers le mois d'août-septembre, qui va être nettement plus importante que celle qui est actuellement disponible. Et donc, il y a des parties que j'avais retranchées pour l'édition téléchargeable que je vais incorporer dans la version finale, et puis un post-scriptum sur lequel je travaille. Ça c'est pour la question de l'édition. Donc c'est une expérimentation en deux temps, en temps version électronique à accès libre et en deuxième temps version imprimée. Je vais suivre un peu les points que vous avez survolés. Par rapport à la question du processus de Bologne, ça commence à devenir bien connu. L'actuel gouvernement français applique des directives du processus de Bologne. Disons que quelque chose de très important s'est joué entre 89 et 90 et la décennie qui a suivi. On a mis donc en place les directives concernant ce qu'on appelle l'économie du savoir. Le savoir donc devient une force productive majeure et décisive dans le cadre mondial de la compétition économique. Et tous les gouvernements sont tenus d'appliquer les directives donc du libéralisme mondial. Ça, disons, c'est entendu. Beaucoup d'études là-dessus détaillent cette logique et sa mise en pratique dans les principaux pays européens. Ceci dit, je pense qu'il y a une sorte d'exception française, ou en tout cas une spécificité française dans la manière d'appliquer cela. Parce que je pense que le gouvernement français n'est pas seulement en train de suivre les directives du libéralisme mondial, mais cela se combine avec une sorte de férocité du gouvernement vis-à-vis de ce qu'ils appellent la pensée 68 ou mai 68, c'est-à-dire la culture universitaire attachée aux événements de 68. Donc je pense que lorsque le président de la République, l'actuel président de la République français, à la veille de sa victoire, a dit qu'un des enjeux majeurs, c'est de liquider, je cite textuellement, je pense, liquider l'héritage de mai 68, je pense que cela fait bon ménage avec les directives du libéralisme mondial. Et là, il y a une férocité particulière, il y a une sourdité affichée, il y a un mépris aussi affiché, célèbre discours du 22 janvier de cette année du président de la République. Tout cela fait que l'application des directives mondiales s'accompagne donc d'un acharnement. On n'a qu'à voir la façon qui n'a pas encore fini, qui consiste à dire, du point de vue des hommes politiques, relayer de façon, je dirais, tout à fait soumise par les grands médias, qui consiste à dire qu'il n'y a aucune raison de s'organiser en contestation, en grève à l'université, que tout cela, c'est le fait de, je cite, une poignée de ténors de la gauche ou de l'extrême gauche ou de la gauche conservatrice, il combine le syntagme. Et cette façon de présenter les choses, elle est fausse, elle est relayée par les grands médias, elle est manifestement fausse, parce qu'une des choses, une marque spécifique de l'actuel mouvement universitaire, c'est qu'on trouve des gens de toutes les positions politiques, hein, toutes les couleurs politiques. Et donc c'est un déni, mais ce déni consiste à ramener les débats sur l'université à ce fantasme de l'actuel gouvernement qui a le spectre de mai 68. Et par conséquent, Je prendrai des réserves par rapport aux comparaisons qu'on fait aux États, avec les États-Unis. C'est pour ça que dans la troisième partie de mon livre, qui s'appelle donc « L'agitation critique comme responsabilité envers l'avenir », je prends comme point de départ les discours de Drew Faust, qui est la présidente de Harvard. Or, je trouve ça intéressant ce discours parce que Drew Faust, ce n'est pas quelqu'un de l'extrême gauche, c'est le moins qu'on puisse dire, d'une part, et d'autre part, c'est la présidente de l'université classée numéro 1 sur le classement de Shanghai, dont sont si jaloux les politiciens français. Or, qu'est-ce qu'il raconte Drew Faust? J'abrège, mais on pourra revenir sur les textes. Elle dit que, d'abord, la fonction de l'université, c'est d'élaborer, cultiver et élaborer ce qui fait de nous des humains, et pas du tout de se soumettre aux exigences de la compétitivité mondiale. Donc c'est tout le contraire de la politique actuelle du gouvernement français, dit la présidente de la grande université américaine. Deuxièmement, elle souligne qu'il n'y a pas d'université sans une culture de l'agitation et de l'indiscipline. Et que cette culture de l'agitation et de l'indiscipline, c'est ce qui rend possible la découverte, la recherche, l'enseignement, l'expérimentation, c'est-à-dire finalement une ouverture vers l'avenir. Or, ce discours, si on le prend tel qu'elle le prononce, est beaucoup plus radical que les discours qu'on tient actuellement en France, du côté de soi-disant gauche. Et donc là, on voit très bien, ça brouille un peu la cartographie plate que le gouvernement essaie de faire passer par les médias. Et voilà une université modèle, c'est le cas de le dire, du monde anglo-américain, et qui est en train de dire pas d'université sans une culture de l'agitation et de l'indiscipline. Et ça, c'est la première fonction de l'université. Et, tandis que les exigences de compétitivité économique, les exigences de qui consistait à vouloir subordonner l'université aux impératifs de l'entreprise, tout cela n'est pas la mission première de l'université. Cela rejoint donc ce que vous disiez en commençant concernant la question du temps. Je crois que vous avez très bien souligné ce point. C'est un point central, effectivement. Peut-être que tout l'enjeu, finalement, toute la bataille, c'est une bataille par rapport à la question du temps. Je crois que ce qui on pourrait montrer, à mon avis, dans les détails des décrets gouvernementaux, la modulation, par exemple, du temps de travail de l'enseignant-chercheur, tout cela consiste à soustraire à l'enseignant et au chercheur le temps de l'apprentissage, le temps du questionnement, le temps de la recherche, le temps de l'investigation, et les subordonner donc au temps comptable, c'est-à-dire au temps utile ou utilisable, qui est celui prescrit par l'impératif de l'échange économique. Et là, on retrouve l'autre question que vous avez soulevée, la question de l'utilité. Et bien sûr, c'est la seule chose qu'on comprend très bien aujourd'hui, c'est qu'il faut être utile. Ça s'appelait, les étudiants allemands au 19e siècle, ils avaient un beau mot pour cela, c'est ce qu'ils appelaient le philistinisme, c'est le philistin. C'est celui qui ne peut évaluer quoi que ce soit que du point de vue de la question à quoi ça sert et quelle est son utilité. Mais il y a un très grand écrivain qui s'appelle Simon Leys, qui a écrit un tout petit texte de 3 pages sur l'université, sur l'idée d'université, c'est son titre. Et il dit, tout le monde comprend très bien ce qui veut dire être utile, donc que l'université soit professionnalisante comme des écoles professionnalisantes. Mais ce qu'on ne comprend pas, quelques-uns seulement peuvent comprendre, c'est, dit-il, l'utilité de l'inutile. Et donc là, il dit l'université, la première tâche de l'université, ça s'attache à supérieur, c'est de se consacrer à cette utilité de l'inutile. Ici, c'est un penseur chinois, un profond penseur chinois là-dessus. Et en disant cela, il inscrit l'université dans la grande tradition, qui était la tradition qui était de former des humains. Il rappelle le mot d'Erasme, on n'est pas humain, on les devient, mot qui a été détourné par Simone de Beauvoir. Et il dit, mais ça c'est la tâche de l'université. Et pour cette tâche-là, on ne peut pas la réduire à l'utilitarisme. Voilà, ça c'est des premiers points par rapport à ce que vous avez dit. Il y a la question de la filiation, comme vous avez appelé, la filiation du livre. Je me reconnais dans la série que vous avez esquissée, c'est-à-dire la première université médiévale à Bologne, au XIe siècle, l'université de Berlin. Je notais simplement une chose qui me semble importante, qui n'est pas assez précisée. Elle est un peu sous-entendue dans les textes, mais je voudrais la préciser pour l'édition imprimée. C'est que dès que l'université de Berlin est fondée, donc en 1810, à l'université Humboldt, on va commencer à élaborer une sorte de discours contre-universitaire. Et les premiers grands discours contre-universitaires, comme par hasard, c'est le discours d'universitaire. Contre-universitaire, c'est-à-dire une critique de l'université par l'université ou par les universitaires. Et les premiers grands discours importants, à mon sens, là-dessus, c'est le discours de Schopenhauer, dans un texte qui s'appelle, en traduction française, « Contre la philosophie universitaire ». C'est un texte, c'est un pamphlet contre les grands philosophes de l'idéalisme allemand qui occupent l'université de Humboldt. Et Schopenhauer va donc développer une critique de l'idée d'université moderne. Et je pense qu'il va inaugurer une lignée, c'est ça qui m'intéressait voir de plus près, une lignée à l'intérieur de l'université d'une critique contre l'université. Je pense que la meilleure critique qu'on peut faire de l'université, elle vient des universitaires, évidemment, et pas des gestionnaires. Par exemple, les gestionnaires qui ont rédigé les décrets concernant la modulation de l'enseignement des anciens chercheurs aujourd'hui en France, sont des gens qui, manifestement, n'ont jamais suivi un cours universitaire. Ça a été établi dans plusieurs études qui ont été faites. Ce sont des gens qui pensent qu'être utile, ça veut dire, par exemple, produire des brevets industriels. Ce qui, dans le cadre de ma discipline, n'a aucun sens. À partir de Schopenhauer, on a une idée d'une posture critique par rapport à l'université. On peut déjà la remonter chez Kant, mais disons, après l'université Humboldt, Schopenhauer, qui est dans les droits fils de Kant, élabore cette critique. Et puis nous verrons Horkheimer, qui va fonder ce qu'on appelle l'école de Francfort, suivre l'orientation schopenhauerienne. Et donc ils vont fonder Horkheimer, Adorno, après Marcuse et Benjamin, ce qu'on appelle l'école de Francfort, et qui est un institut de recherche sociale et qui a une position critique vis-à-vis de l'université. Il consiste à rappeler, grosso modo, les fondements sociaux, les présupposés sociaux qui viennent fonder la recherche et l'enseignement. Et puis encore dans si on laisse tomber, évidemment, entre parenthèses, Nietzsche, qui est disciple de Schopenhauer, qui vient avant Horkheimer et qui, dans un petit texte qui s'appelle « Sous les établissements d'enseignement à venir », fait déjà une critique de la situation en Allemagne de l'enseignement. Si on laisse de côté cette Nietzsche qui va lui-même être un nomade, qui ne va pas être un prof universitaire au sens classique du terme, si on reprend Schopenhauer, Horkheimer, l'école de Francfort, on aura vers la moitié du XXe siècle l'université libre de Berlin, qu'est l'université où les étudiants ont un rôle majeur, qui consiste à se démarquer de l'université de Berlin Humboldt. Et cette université est fondée, très inspirée par la dite école de Francfort, et fondée sur un principe d'autogestion où les étudiants, par exemple, participent au recrutement des enseignants. Cette expérience va être importante. C'est aussi une expérience d'une contre-université qui, et par la suite, va déboucher sur le mouvement étudiant allemand des années 60. Et par la suite, en ce qui concerne la France, va ouvrir sur ce que vous évoquez, les centres expérimentaux de Vincennes, qui est donc le lendemain de 68, les centres expérimentaux aussi bien du point de vue de l'enseignement que de la recherche, dont le département de philosophie où nous sommes fondés par Michel Foucault à l'époque, essaye déjà d'étirer les conséquences d'une expérimentation universitaire qui soit en même temps critique de l'université. Et juste pour clore ces petites séquences de critiques universitaires de l'université, après Paris 8 Vincennes, il va avoir le Collège international de philosophie, dont François Châtelet, qui dirigeait le département de philosophie à Paris 8, disait que le Collège international de philosophie était une suite de Vincennes. Et donc, les rapports bleus, que les rapports qui fondent le Collège international de philosophie, on peut très bien voir que là, on est dans les droits fils d'une critique de l'institution universitaire et la recherche de quelque chose qui a à voir avec l'université, mais qui ne se réduit pas à l'université. Je dirais jusqu'au texte que vous avez évoqué de Derrida, qui s'appelle L'université sans condition, on est dans cette lignée-là. Je vais dire que les principes d'université est par définition aussi les principes de critique de l'université. Il comporte en lui-même cette auto-réflexion qui consiste à critiquer l'université et cette séquence qui va, disons, de Schopenhauer à Derrida pour abréger, elle est un déploiement de ces principes. Sans oublier, évidemment, lorsque je parlais des étudiants allemands, Rudi Dutschke, qui avait participé à l'Université libre de Berlin et qui a été assassiné en 68 parce que il est mort après son titre, mais il a été donc cible en 68 parce que c'était dans cette critique-là quelqu'un qui devenait gênant pour la société allemande de l'époque. Voilà, peut-être, faut-être peut-être après revenir sur les parallèles que vous faites avec l'insurrection qui vient. C'est vrai qu'il y a beaucoup de... Il y a un certain nombre de publications en ce moment qui sont importantes. Je m'ai tenu compte pour l'édition papier, imprimé. Je ne suis pas d'accord avec quelques-uns de mes collègues qu'on appelle intellectuels qui pensent qu'il n'y a que quelques-uns seulement qui font un travail intellectuel. Je pense qu'à côté de la mobilisation politique, de l'action, etc., il y a beaucoup de recherches qui ont été faites. Il y a des analyses remarquables, une façon de décortiquer les textes parfois techniques du gouvernement. Je pense qu'il y a un bon travail qui est en route, qui est en mouvement.
Le fait de rapprocher le texte de l'insurrection qui vient était aussi une manière peut-être de souligner la nécessité, ou en tout cas la nécessité de connecter l'université avec son dehors. Je vous remercie pour cette précision effectivement de l'affiliation et de bien préciser qu'il s'agit d'une critique de l'université à l'intérieur de l'université, et ce qui nous permet d'ailleurs de commencer par ce premier point que vous soulignez, qui est l'indépendance inconditionnelle ou la condition de la critique. Alors, je voudrais vous faire part d'un petit passage de Jacques Derrida sur ce point, qui est un passage où il parle de l'université comme l'ultime lieu de résistance critique. Et il appelle à des nouvelles humanités et des humanités capables de prendre en charge des tâches de déconstruction, à commencer par celle de leur propre histoire et de leurs propres axiomes. Nous sommes donc bien là dans une critique de l'université à l'intérieur de l'université. Conséquence de cette thèse, l'université inconditionnelle, une telle résistance pourrait opposer l'université à un grand nombre de pouvoirs, au pouvoir d'État, au pouvoir économique, au pouvoir médiatique, idéologique, religieux et culturel. Bref, à tous les pouvoirs qui limitent la démocratie à venir. L'université devrait être aussi le lieu dans lequel rien n'est à l'abri du questionnement, pas même la figure actuelle et déterminée de la démocratie. Sur la condition de la critique comme le fait que rien ne peut échapper à la critique.
Oui. Je connais le texte de Derrida. Il est même, comme vous avez remarqué, une des sources de mon texte sur les principes de l'université. J'avais discuté un petit peu avec lui, c'est la dernière fois où je l'ai vu, avant son décès. Je l'ai bien connu parce que, quand j'étais étudiant, j'avais travaillé avec lui. Et pour ses archives personnelles d'une part et d'autre part pour, à l'époque de la naissance du Collège international de philosophie. Je pense que cette idée qu'il n'est à l'abri du questionnement, je la mettrais en parallèle avec l'argument kantien concernant les Lumières. Je pense que Derrida, si mes souvenirs sont bons, il fait référence justement à Kant. Ce texte de Kant, Qu'est-ce que les Lumières ? C'est un texte qui concerne donc la naissance de l'espace public. Et pour Kant, la promesse que l'humanité puisse aller vers le mieux tient seulement sur ce point. Si nous sommes capables de maintenir un espace public où tout est possible d'être questionné, et aucun nouvel argument sur ce que nous devons être n'est pas censuré, si nous tenons donc un espace public dans ces conditions-là, nous pouvons être sûrs que l'humanité sera orientée vers les mieux. Donc c'est la condition de possibilité d'une liberté qui vient s'inscrire dans la réalité. Et je pense que lorsque Derrida il revient sur cette idée de rien n'est à l'abri du questionnement ou de la critique, que tout peut être questionné évidemment, il s'inscrit dans les fils de cet argument kantien majeur qui a été redécouvert dans les années 80. Il y a Michel Foucault qui revient sur ce texte, il y a Lyotard qui revient sur ce texte, Anna Arendt était revenue sur ce texte. Donc c'est un texte, Habermas aussi, donc c'est un texte où on découvre l'importance qui est d'avoir un espace public ouvert au questionnement. C'est tout à fait le contraire, comme vous avez évoqué en commençant d'ailleurs, tout à fait le contraire de ce qui se passe avec l'actuel gouvernement français qui entend bien fermer l'espace public. Par exemple, le fait que l'espace public au sens de la société, à l'échelle de la société, soit colonisé par les grands médias qui sont des entreprises avec la logique de l'entreprise où l'information est une marchandise, etc. Ça montre bien que ce qui était pour Kant le gage d'une liberté est aujourd'hui compromis. Là, on a de quoi être assez pessimiste. Et il reste encore une dernière citadelle ou un reste d'espace public est maintenu vivant parce que c'est la condition de vie de l'institution, c'est l'université. Mais c'est justement cette citadelle que maintenant on veut, de laquelle on veut s'emparer. Et donc, fermer l'espace public, l'idée de remplacer, qui consiste à remplacer la collégialité par un président omnipuissant et tout ce qui s'ensuit dans les relations entre président d'université à venir, l'enseignant-chercheur, tous les étudiants, tout ce qu'on est en train de mettre en place signifie la mort de l'espace public, même là où il existe encore, où il subsiste encore, c'est-à-dire à l'université. Je crois que c'est de très grande importance ce qu'il dit, évidemment, Derrida dans son texte. Je ne sais pas, peut-être il y a aussi dans son texte une profession de foi, c'est le cas de le dire, puisque c'est un thème du livre, par rapport aux humanités à venir. Je pense qu'aujourd'hui, les choses sont beaucoup plus noires, si je puis dire, en tout cas à l'horizon immédiat, et pas seulement en France, elle est beaucoup plus noire, apparemment, que ce qui est dit, je pense, Jacques Derrida dans son texte.
Cette phrase de Jacques Derrida est la suivante. Le droit principal de tout dire, fût-ce au titre de la fiction et de l'expérimentation du savoir, et le droit de le dire publiquement, de le publier. Voilà donc ce que c'est l'université sans condition. Et donc, cette référence, il précise, cette référence à l'espace public restera le lien de filiation des nouvelles humanités à l'époque des Lumières. Cet espace public, vous l'appelez, vous également, la publicité. Dit, le principe d'université suppose et appelle un principe de publicité. Peut-être revenir sur l'histoire de ce mot espace public.
Donc, la publicité, c'est la traduction du terme allemand Öffentlichkeit. C'est le mot qu'emploie Kant lorsqu'il parle de la publicité. C'est un mot, on a déjà discuté ailleurs, c'est un mot qui n'a pas pu être traduit en français par publicité, puisque publicité actuellement veut dire justement la pub ou la réclame, c'est-à-dire tout le contraire de ce que veut dire la publicité, c'est-à-dire la pub, la réclame, c'est-à-dire la façon de persuader l'autre ou voir, de les forcer, voire de les manipuler, tandis que la publicité au sens noble du terme, ça voudrait dire l'échange des discours argumentés. Je sais bien que c'est une distinction complexe à faire, mais il y a un abîme entre la Öffentlichkeit et la pub d'aujourd'hui. On a donc traduit par espace public. Mais la promesse d'un espace public, c'est la promesse d'un exercice de discussion où chacun a le droit absolu de présenter son idée sur ce que nous devons être, comme le disait Kant. Et cette discussion, l'exercice de cette discussion est un exercice formateur. Une opinion publique qui s'exerce à la libre discussion, c'est une opinion qui doit pouvoir se former dans sa volonté et dans sa capacité de se proposer des fins. C'est-à-dire, quelles sont nos fins ultimes? Que voulons-nous en nous mettant à vivre ensemble? Et cela suppose donc une culture de la discussion. Mais c'est tout cela qui est, si je peux dire, corrompu aujourd'hui. On n'a pas le temps, on revient à la question du temps, on n'a plus le temps de cette discussion-là. Je me souviens que en lisant des travaux là-dessus, à la fin du 19e siècle, il y avait encore des chefs d'entreprise qui étaient contre la pub et contre la réclame parce qu'ils trouvaient que c'était indécent de dire du bien de soi-même, de dire du bien de son propre produit. Donc on voit en un siècle l'écart. Parfois aujourd'hui, c'est une chose impensable. Hein. C'est notre planète de parler comme ça. Ils pensaient que c'était pas bien éthiquement de venir et dire « voilà, mon produit, il est très bien, il est meilleur même que celui de mon voisin ». Donc de là à ce que Baudelaire appelle et Marx appelle la, ensemble la prostitution, c'est un pas que nous avons franchi. Et donc, je pense que nous sommes dans un verrouillage très important de l'espace public. Et ce verrouillage, il est lié à ce que Ernest Jünger, je pense que c'est un personnage important dans cette affaire. Jünger a été le chef de l'occupation allemande à Paris. C'était un brillant écrivain, c'était aussi un interlocuteur de Heidegger. Et Jünger écrit un livre crucial qui s'appelle « La mobilisation totale » en 1930. Et c'est une réflexion sur la défaite allemande lors de la Première Guerre et une façon de pointer quel va être l'enjeu à suivre. Et tout l'enjeu, dit-il, suppose la capacité des États forts de mobiliser totalement les énergies, y compris les énergies inconscientes. Et je pense qu'aujourd'hui, ce qu'on appelle le soi-disant espace public, c'est plutôt le lieu de la mobilisation totale. C'est-à-dire la mobilisation totale de l'énergie consciente et inconsciente. Et cela veut dire donc la mobilisation de notre temps. Et tous ceux qui ne s'inscrivent pas clairement dans le temps et l'énergie mobilisée totalement sont vus comme inutiles, justement. Et ça, à mon sens, puisque tout cela, évidemment, est fait bénéficie maintenant massivement des ressources des technologies nouvelles, tout cela, c'est inouï comme stratégie de pouvoir.
Et en fait, la télévision est très vite née, puisqu'elle est principalement née aux États-Unis, elle est née aussi avec la publicité qui a financé la télévision. Et donc, en fait, c'est le monde publicitaire qui est très fort pour parler pour dire des choses avec un seul mot, une seule image, aussi fort qu'Eisenstein. Mon idée, c'est que c'est Eisenstein c'est Potemkin. Les films publicitaires sont faits comme Potemkin, mais Potemkin durait 1h30, et un film publicitaire ne dure pas plus d'une minute. Parce qu'au-delà, il faudrait quand même dire la vérité sur ce que c'est, sur la bagnole, sur la marque d'une raquette ou quelque chose, et que c'est lié à la vérité, et qu'on admet l'absence de vérité et juste le bavardage autour.
C'était la voix de Jean-Luc Godard, répondant aux questions de Wim Wenders dans le film Chambre 666. Nous poursuivons avec Plinio Walder Prado à propos de la publication du livre Principes d'université aux éditions Ligne. Semblait décrire un état qui serait une forme d'état totalitaire, d'une certaine manière. Il semblerait, à vous entendre, qu'il y ait un double mouvement, ou en tout cas un mouvement qui a pour conséquence un autre mouvement. Est-ce que vous dites, d'une part, il y a le verrouillage de l'espace public par le gouvernement, et d'autre part, vous rappelez que nous ne sommes pas tout à fait à la même période, à la même époque, au même moment historique que le moment où Derrida écrit L'université sans condition, qui est un moment où il dessine des promesses pour de nouvelles humanités. Et vous sembleriez dire qu'aujourd'hui, nous sommes dans un moment noir où nous ne serions plus en capacité de dessiner, de projeter de nouvelles humanités. Est-ce à dire que le verrouillage de l'espace public n'est pas forcément quelque chose d'aujourd'hui, mais quelque chose qui est là depuis longtemps et qui a fait que il n'y a pas eu de critique de l'université à l'intérieur de l'université depuis un certain temps, qui fait que il n'y a pas eu de promesse de nouvelles humanités, ou en tout cas la parole de Derrida n'a pas été relayée. C'est ce que Yves Citon souligne dans le fait que l'université n'a pas relevé la promesse d'une humanité radicale. Parce que Je voudrais souligner aussi le fait que vous citez Thoreau à plusieurs reprises dans votre texte, et notamment ce passage. L'État n'affronte jamais délibérément le sens intellectuel ou moral d'un homme, mais uniquement son corps, ses sens. Il n'est pas armé d'un esprit, ni d'une dignité supérieure, mais de la seule supériorité de la force physique. Et il semblerait que la liberté de penser est articulée à une liberté des sens. Et ça me fait penser à un texte de Paul-Louis Courier qui dit « La liberté de penser commence avec la liberté de danser ». Et il n'y a pas très longtemps, j'ai pu réécouter des entretiens de, par exemple, Jean-Luc Godard qui disait « Mon pays, c'est l'imaginaire et je me sens en occupation ». Et par exemple, Marie-Josée Mondzin qui parle d'une économie de la cécité. Perte de la vue, perte peut-être du toucher, perte peut-être de la parole. Est-ce que le verrouillage de l'espace public n'est pas celui-là qui serait le verrouillage des sens aussi des corps? Bon, je vais peut-être un peu loin, une forte digression, mais...
Non, je... d'abord, juste revenir un instant sur ce que vous venez de dire, c'est-à-dire la question du totalitaire. Bien sûr qu'en France, par exemple, nous sommes dans un régime, dans une république avec un régime démocratique parlementaire, représentatif, et donc on n'est pas dans un totalitarisme politique. Même si ce régime actuel français est très autoritaire. Ça ne suffit pas pour faire un totalitarisme au sens où ce concept a été construit au XXe siècle à partir des expériences mussoliniennes, hitlériennes et staliniennes. Même si on a déjà comparé Sarkozy avec Brejnev, c'est déjà quand même un post-stalinien. Donc c'est plus doux à certains égards. Mais je pense en revanche, si on suit les fils de la mobilisation totale de Junger, il y a quelque chose qui est à vocation totalisante aujourd'hui, et c'est justement l'économie. C'est-à-dire la loi économique, c'est-à-dire la loi de la valeur d'échange, c'est-à-dire qu'il n'a droit d'exister que ce qui est échangeable. Et ce qui est échangeable n'existe pas, il n'existera pas. Donc on revient à la question que vous posez au départ du temps comptable. Donc, c'est-à-dire que si votre livre, puisque nous parlons de mon livre, si votre livre ne peut pas assurer un chiffre d'affaires suffisant, il n'existera pas. Si votre cours ne peut pas assurer un certain nombre d'inscrits, avant, quand j'enseignais, il fallait avoir 12 étudiants au moins en classe pour que les cours puissent avoir lieu. Donc c'est au fond, que ce soit les chiffres d'affaires du livre, le nombre d'inscrits pour un cours, c'est la logique de l'audimat. Votre émission à la télé ne va pas être assurée si vous ne faites pas tel chiffre d'audimat. Donc tout ça, ça veut dire, et là je ne parle que des questions, disons, culturelles. Je ne parle pas évidemment des choses... des marchandises au sens strict, mais on voit très bien que la culture est devenue des biens culturels, comme on dit, c'est-à-dire des marchandises, depuis un bon moment. Et donc, ça, c'est ta vocation totalisante. Hein. C'est-à-dire qu'il y a un totalitarisme, je dirais, de la loi d'échange. Et au point qu'on peut se demander qu'est-ce que dans notre vie, chacun doit pouvoir se demander qu'est-ce que dans sa vie échappe à cela. Les choix des amis peut-être, les choix des amours peut-être, et encore. Donc ça me semble quelque chose d'assez redoutable. Et ça peut, c'est ce que quelqu'un m'avait dit une fois, ça c'est une véritable menace pour l'humanité et pour l'histoire de l'humanité, que tout soit réduit à cette logique-là. Et le libéralisme mondial, dans ce qu'il y a de plus redoutable, je pense, consiste à assurer l'extension de ça. Et je dirais la pénétration de cela jusqu'à l'intime, au sens de la phrase de Godard que vous venez de dire. Ça, c'est, me semble-t-il, très important et grave. Je ne veux pas accuser les traits de pessimisme, on va dire. C'est un très mauvais mot, pessimisme, optimisme, ça appartient encore à l'époque des Lumières, mais je veux dire que personne ne peut préjuger de l'avenir. Hein, et ça ne veut pas dire que les derniers mots, que la fin de l'histoire, comme on a dit, est là. On n'en sait rien. Mais on peut quand même dresser un tableau des états des lieux aujourd'hui et là-dessus, et c'est vraiment sombre. Je suis assez enclin à suivre ce que vous esquissez là au sujet de la façon dont les sens, la vue, l'écoute, les touchés sont affectés aujourd'hui. Je vois là quelque chose qui est décrite par, qui était déjà décrite. Il y a une correspondance entre Walter Benjamin et Adorno au milieu des années 30 au sujet de la question de savoir qu'est-ce qui arrive à la sensibilité lorsqu'elle est exposée au capitalisme industriel. Donc c'est notre question. Cette question, elle va être explorée par Adorno, qui a un texte célèbre sur la régression de l'écoute. Hein, on ne sait plus écouter, finalement, de la musique. Wittgenstein, qui n'a pas particulièrement travaillé sur cela, il dit, il y a des remarques comme ça dans sa correspondance ou dans son journal, sur le fait que plus on développe les moyens de communication, la radio, l'enregistrement, les disques, moins on sait écouter. Donc il dit là quelque chose d'étrange. Plus il y a un développement technique, plus une sorte de sensibilité est en régression. Il va parler d'une sourdité à l'aspect, aux nuances. Et puis plus près de nous, Roland Barthes dit la même chose. Dans les derniers cours de sa vie, qui est le cours qui porte sur la préparation d'un roman, il parle de notre époque, il dit la culture médiatique et industrielle de notre époque, qui est une culture qui a perdu le sens des nuances. On ne sait plus, on travaille avec de grosses oppositions, on n'a plus le sens des nuances. Et je pense que dans tous ces diagnostics-là, il y a cette idée que tout se passe comme si les corps, on va dire modernes ou post-modernes, étaient affectés d'une anesthésie. C'est un mot que Lyotard va utiliser dans une discussion avec Adorno, une anesthésie, c'est-à-dire que tout se passe comme si la sensibilité contemporaine était affectée au point de devenir insensible. Et n'est plus pouvoir, qu'elle n'est plus, disons, accessible qu'aux grosses sensations, au sensationnel, au sensationnalisme. Et donc il faut mettre des gros paquets pour essayer de toucher, mais on a perdu un raffinement, même diagnostic chez Barthes, un raffinement dans le voir, dans l'écouter, dans le toucher. Et c'est pour ça qu'aussi bien, je pense, que pour Adorno que pour Lyotard, et c'est sûrement Benjamin s'il avait encore vécu, l'enjeu majeur de notre époque, c'est la question de la sensibilité. Donc, question de l'esthésie, de l'esthétique. C'est pas parce qu'on a des esthètes dans une tour d'ivoire, mais c'est parce que c'est là que le système frappe. C'est-à-dire, ça rejoint encore la phrase de Godard.
On pourrait, pour le coup, renvoyer à un auteur contemporain qui serait tout le travail de Jean-Luc Nancy sur justement le toucher et la question du sens. Vous-même, sur cette question, vous citez dans votre texte une phrase de Jean Genet : être apte à accueillir la révolte de la même façon qu'une oreille musicienne reconnaît la note juste. On voit bien donc là l'importance des sens. Je voudrais poursuivre dans ce dialogue entre le texte d'Derrida et puis le vôtre. Derrida dit ceci sur la fragilité de l'université. Parce qu'elle est étrangère au pouvoir, parce qu'elle est hétérogène au principe de pouvoir, l'université est aussi sans pouvoir. C'est sa fragilité, d'une certaine manière. Parce qu'elle est absolument indépendante, l'université est aussi une citadelle exposée. Elle est offerte, elle reste à prendre, souvent vouée à capituler sans condition. Partout où elle se rend, elle est prête à se rendre. Parce qu'elle n'accepte pas qu'on lui pose des conditions, elle est parfois contrainte, exsangue, abstraite, à se rendre aussi sans condition. Oui, elle se rend, elle se vend parfois, elle risque d'être simplement à occuper, à prendre, à acheter, prête à devenir la succursale de conglomérats et de firmes internationales. Une question se pose alors, qui n'est pas seulement économique, juridique, éthique, politique. L'université peut-elle affirmer une indépendance inconditionnelle, revendiquer une sorte de souveraineté, une espèce très originale, une espèce exceptionnelle de souveraineté, sans jamais risquer le pire, à savoir de devenir, en raison de l'abstraction impossible de cette souveraine indépendance, se rendre et capituler sans condition, se laisser prendre ou acheter à n'importe quel prix. Il y faut alors non seulement un principe de résistance, mais une force de résistance et de dissidence. C'est sur cette force de résistance et de dissidence, sur cette poussée, qu'on pourrait aborder le point 3 et 5 dans votre texte, l'agitation critique comme responsabilité envers l'avenir et le principe d'université en principe de résistance. Je sais que, par exemple, pendant le mouvement des universitaires, s'est expérimenté un certain nombre de cours qu'on appelait la grève active, où s'est joué des nouvelles formes, ou en tout cas, s'est rejoué une nouvelle manière d'aborder la relation enseignant-étudiant. Les universités ont connu un certain nombre de mouvements qui étaient extérieurs à l'université, mais qui sont venus occuper l'université. Très souvent, c'est le cas, par exemple, autour des luttes, autour des sans-papiers et des demandeurs d'asile. Dans quelle manière l'université peut accueillir ces luttes pour qu'elles deviennent aussi objets de savoir, c'est toute la question sur l'autogestion, objets de savoir pour réinventer une nouvelle articulation au savoir. Est-ce que c'est peut-être aussi le sens de ce que dit la présidente de l'université Harvard, une université agitée, et c'est aussi le sens de ce que dit Yves Citon à propos de l'espace public oppositionnel. Il parle de ceci: l'université pourrait avoir besoin de cultiver en son sein un espace public oppositionnel qui constituerait son principal laboratoire de recherche, c'est-à-dire accueillir les classes en lutte dans la salle de classe comme dernier cri pédagogique de la lutte des classes.
C'est difficile. En vous écoutant, je vois bien tout ce que d'autres collègues universitaires qui sont dans la lutte pourraient vous répondre. Je ne veux pas cacher qu'il y a une difficulté dans tout cela. Et peut-être aussi qu'il y a beaucoup de points obscurs pour moi dans l'état actuel de lutte, y compris dans ce qu'on peut éventuellement faire avec d'autres mouvements qui croisent les mouvements de l'université, par exemple les sans-papiers. Je dis croise parce que j'ai des étudiants sans papier, par exemple. J'ai des étudiants étrangers qui sont menacés. Il y a des étudiants qui sont empêchés d'entrer en France. Je suis directeur de la formation master du département de philosophie. Donc, je suis en contact avec les gens qui préparent leurs papiers pour quitter leur pays parce qu'ils souhaitent venir faire un master ou un doctorat à Paris. Je vois les difficultés qui sont de plus en plus grandes dans les pays d'origine. Donc, toutes ces luttes-là, bien entendu, se croisent. Ceci dit, je pense qu'entre la question de la connexion entre les différentes luttes et la spécificité des différentes luttes et toute une palette de positions là-dessus, il y a tout cela fait une somme de difficultés qui est difficile à mon sens aujourd'hui d'arbitrer. La question de l'agitation critique dont parle Degas ou Faust, de la discipline, je m'appuie sur cela dans la troisième partie de mon livre parce que je vois bien comment cela contre facilement l'argument gouvernemental et concernant les soi-disant modèles anglo-américains et concernant la soi-disant extrême gauche qui tient des discours conservateurs. Mais ceci étant dit, il y a un problème avec le discours de Degas ou Faust. Ça donne, à mon avis, la mesure des difficultés. C'est que c'est le discours de la présidente de la première université au monde, si on suit quelque chose qui est quand même arbitraire, le classement de Shanghai. Et c'est l'université la plus riche et extrêmement élitiste. C'est-à-dire que c'est une université qui coûte très cher et qui n'est pas ouverte à tout le monde. Ce n'est pas une université ouverte à tous, comme on dit lorsqu'on parle de démocratisation de l'université. Degas ou Faust dit qu'il va faire des efforts pour améliorer un peu cela, mais je pense qu'ils ont beaucoup d'efforts à faire là-dessus. Or, cela veut dire quoi? Cela veut dire que tout se passe comme si la vraie université, celle de l'agitation et de l'indiscipline créatrice, évidemment, agitation et critique et discipline créatrice, c'est-à-dire en inventant sur l'enseignement, sur la recherche, sur l'expérimentation, eh bien, tout se passe comme si cette université-là était réservée à une élite. Il n'y a que l'élite qui aurait accès à l'indiscipline, à l'agitation. Donc, le problème, ce ne serait pas qu'on est contre, je veux dire, les gens de pouvoir sont contre l'agitation et l'indiscipline. Ils sont contre l'agitation et la discipline pour tous. Hein. Et tout le problème, c'est comment se fait-il qu'avec la démocratisation de l'université, n'importe qui maintenant peut accéder à l'agitation et à l'indiscipline. Or, je pense que c'est ça les vrais défis. C'est pour ça que le discours de Degas ou Faust peut se tenir et sans faire trop de mal à l'Amérique du Nord. Mais si on adopte les mots de Antoine Vitesse, l'élitisme pour tous, c'est-à-dire indiscipline et agitation créatrice pour tous, alors là, c'est, me semble-t-il, ce qui est absolument interdit, y compris à Harvard. Hein? C'est ça. C'est là où je vois qu'il y a quand même une limite qui vient de partout.
C'est là où il y a eu, par exemple, dans les années 60, une réaction qui a été la création de l'université de Vincennes, celle dont on est là aujourd'hui, qui s'est voulu, qui se veut avoir été être une université d'un élitisme pour tous. Est-ce qu'aujourd'hui, finalement, la question ne se pose pas tout simplement celle d'un nouvel espace, d'un nouveau lieu, d'où peut émerger un tel projet? Parce que finalement, effectivement, ce qui semblerait être aujourd'hui le plus difficile, c'est la question de la justice sociale, finalement, celle de l'accès pour tous. Il semblerait qu'aujourd'hui, c'est ce qui paraît le plus difficile à articuler. Alors que c'est très étonnant, parce que c'est un principe d'égalité fondateur en France.
Oui, donc, que les principes fondateurs en France se sont bafoués tout le temps. Hein, commencer par les principes de droit à la liberté d'expression. Est-ce qu'ils vont me laisser parler pendant 10 minutes au journal de 20 heures, je ne crois pas. Donc il y a, je connais beaucoup d'histoires des gens qui ont été interdits, même après avoir été invités à participer aux grandes messes journalistiques et des grandes chaînes. Donc il y a, je pense que la liberté d'expression, la liberté d'avoir accès à l'information, tout cela, pour rester sur ce point qui est quand même très important, est bafoué tout le temps. Donc là, nous pouvons dire ce que nous voulons dire ici en toute liberté. Nous sommes, à l'Université de Paris 8, à l'antenne de Bout de Souffle, qui est aussi alternatif comme l'Université de Paris 8. Et là, nous pouvons donc dire ce que nous pensons et tout ce que nous disons, évidemment, peut être discuté, critiqué, et nous sommes ouverts à tout cela, mais nous sommes quand même sur une fréquence là, ou sur un plan qui est un foyer de résistance minoritaire, hein. Et donc là on peut, il nous autorise à survivre à ce niveau là, mais que cela devienne un peu plus important, je crois que ça c'est intolérable. Lorsqu'on décide de monter un centre expérimental de Vincennes au lendemain de 68, pour ce qui est de ce département ici, il revient à Michel Foucault en particulier de monter le département. Mais un an après, en 69, Michel Foucault, en 70, début 70, Michel Foucault accorde un entretien au Nouvel Observatoire qui s'appelle « Les pièges de Vincennes ». Et c'est déjà pour dénoncer comment les gouvernements de l'époque avaient piégé les chercheurs et les enseignants en disant voilà, vous pouvez monter votre centre expérimental, et une fois qu'on a monté, ils nous ont refusé d'accorder la validation des diplômes. Donc ça veut dire que Vincennes en 70, il y avait des étudiants qui étaient déjà qui suivaient des cours depuis un an et demi, et ils apprennent que le ministère ne va pas valider leurs études. Donc c'est un coup de traîtrise en plus de la part du ministère. Et lorsque vous regardez, parce que je sais que beaucoup de gens, surtout dans notre foyer de résistance, regardent l'abécédaire de Gilles Deleuze, tous les étudiants que vous voyez sur la scène, aucun n'aura de diplôme. Parce qu'à l'époque, Paris 8 ne délivrait pas de diplôme en philosophie. C'est intéressant parce que tout le monde sait ça, mais les gens s'en fichent d'avoir un diplôme à l'époque. Ils s'en fichaient d'avoir un diplôme, ils voulaient écouter quelque chose qui leur apporte une connaissance, une interrogation, une réflexion sur la vie, la façon de vivre, etc. Mais je pense qu'entre les gens de cette époque-là, 68, et les années qui suivent, qui sont des gens qui luttent contre le travail, et les jeunes d'aujourd'hui qui luttent pour le travail, il y a quand même 40 ans d'un endoxissement mondial considérable.
En janvier 1970, le ministre de l'Éducation nationale, Olivier Guichard, fait part au président de la faculté de Vincennes, M. Cabot, de son intention de ne pas accorder le titre de licencié d'enseignement aux étudiants du département de philosophie de Vincennes. Sur Radio Luxembourg, le ministre justifia son projet, expliquant que le contenu de l'enseignement de la philosophie à Vincennes était trop particulier et spécialisé. Pour convaincre les auditeurs, il a ensuite lu les titres de quelques cours consacrés au marxisme et à la politique. Ces déclarations ont provoqué les remous qu'on imagine. Michel Foucault était alors responsable du département de philosophie. Le piège de Vincennes, entretien donné au Nouvel Observateur par Michel Foucault, février 1970. Qu'on nous dise clairement ce qu'est la philosophie et au nom de quoi, de quel texte, de quels critères ou de quelle vérité on rejette ce que nous faisons. Qu'est-ce que la philosophie a de si précieux et de si fragile pour qu'il faille, avec tant de soin, la protéger? Et qu'y a-t-il, chez les Vincennois, de si dangereux? Non, je ne vous apprendrai rien. La philosophie n'est pas un savoir. C'est une réflexion, une certaine manière de réfléchir, qui permet de tout remettre en question et y contraint. Vous venez, pendant 5 ou 6 ans, de croire aux beautés de l'iphigénie, de la méiose des cellules sexuelles, du take-off économique de l'Angleterre bourgeoise. Tout ce savoir, vous voici en droit de le réexaminer. Non dans son exactitude, mais dans ses limites, ses fondements, ses origines. Et ce que vous aurez à apprendre, quand vous deviendrez médecin, chef de marketing ou chimiste, il faudra le soumettre au même tribunal. Vous êtes en train de devenir libre, citoyen dans la République du savoir. À vous d'exercer vos droits. Mais à une condition, c'est que vous fassiez usage de votre réflexion et d'elle seule. Réflexion, c'est-à-dire bon sens légèrement rehaussé, jugement impartial qui sait écouter le pour et le contre. Liberté, enfin. C'est pourquoi, continue le professeur, en dépit de la lettre d'un programme qui ne vous oblige pas tout à fait, j'essaierai de vous apprendre à juger librement. Liberté et jugement, telle sera la forme de notre discours. Tel en sera donc naturellement le contenu. Mon collègue de la classe d'à côté, qui est sexagénaire, insistera davantage sans doute sur le jugement en se référant à Alain. Je vous parlerai surtout de la liberté et de Sartre. Je suis quadragénaire. Mais ni vous, ni vos camarades ne perdront au partage. Sartre et Alain, ces classes de philosophie devenu penser. Ce discours n'est pas vain, mais de l'extérieur, un autre lui répond. Les professeurs de philosophie sont bavards, toujours inutiles, parfois dangereux. Ils parlent de ce qui ne les regarde pas, ils s'arrogent le droit de tout critiquer. La connaissance qu'ils n'ont pas et la société qui les nourrit. Il est grand temps pour les élèves de ne plus perdre leur temps. Supprimons tout ce fatras. Il ne faut pas sous-estimer la menace. Elle existe. Mais elle n'a pas cessé d'exister. Elle fait partie en France des conditions d'existence de la classe de philosophie. C'est le gendarme nécessaire à l'intrigue. Grâce à lui, le rideau ne retombe pas. C'est que le jeu, me semble-t-il, est le suivant. Aux élèves du primaire, la société donne le lire et écrire, instruction. À ceux du technique, elle donne des savoirs à la fois particuliers et utiles. À ceux du secondaire, qui doivent normalement entrer en faculté, elle donne des savoirs généraux, la littérature, la science. Mais en même temps, la forme générale de pensée, qui permet de juger tout savoir, toute technique, est la racine même de l'instruction. Elle leur donne le droit et le devoir de réfléchir, d'exercer leur liberté, mais dans l'ordre de la seule pensée, d'exercer leur jugement, mais dans l'ordre seulement du libre examen. La classe de philosophie, c'est l'équivalent laïque du luthéranisme, l'anti-contre-réforme, la restauration de l'édit de Nantes. La bourgeoisie française, comme les autres bourgeoisies, a eu besoin de cette forme de liberté. Après l'avoir manquée de peu au XVIe siècle, elle l'a reconquise au XVIIIe siècle et l'a institutionnalisée au XIXe, dans son enseignement. La classe de philosophie, c'est le luthéranisme d'un pays catholique et anticlérical. La bourgeoisie a été obligée au XIXe siècle d'accorder le suffrage universel. Or, à la différence du protestantisme, la conscience catholique ne pouvait pas à la fois soutenir la bourgeoisie qui avait établi son pouvoir en dépit de l'Église et assuré le contrôle de cette liberté. Il a donc fallu avoir recours à l'instruction. À l'instruction publique. Le secondaire, s'épanouissant dans la philosophie, assurait la formation d'une élite qui devait compenser le suffrage universel, en guider l'usage, en limiter les abus. Il s'agissait de constituer, au lieu et place d'un luthéranisme en défaut, une conscience politico-morale, une garde nationale des consciences. La prolongation de la scolarité est un fait, et à la limite, l'enseignement de la philosophie pourrait être donné à tout le monde. Mais en même temps, on tâche de trouver un moyen pour éviter l'entrée de tous dans les universités. La classe de philosophie risque de devenir inutile si tout le monde y a accès, et dangereuse si elle donne droit de regard sur toute connaissance. Sa suppression est réellement à l'ordre du jour. Il y a ceux qui disent « il faut supprimer la classe de philosophie ». Elle a déjà fait trop de dégâts et on doit s'attendre à bien pire quand les étudiants de la nouvelle génération, ceux de Vincennes en particulier, arriveront dans les lycées. Commençons par mettre hors circuit les étudiants de Vincennes et peu à peu, de suppression en suppression, on fera place nette dans le secondaire et le supérieur. Il y en a d'autres qui disent « il faut sauver à tout prix la classe de philosophie ». Les Vincennois, avec leur bizarrerie, la compromettent. Si on peut être sûr que ces étranges philosophes n'auront pas accès au lycée, nous serons plus forts pour défendre la classe de philosophie dans sa tradition légitime. Il me semble que vouloir conserver la classe de philosophie dans sa vieille forme, c'est tomber dans le piège. Car cette forme était liée à une fonction qui est, encore une fois, en train de disparaître. Et le jour viendra vite où l'on entendra dire « Pourquoi conserver encore un enseignement si désuet et si vide, à une époque où tout le savoir est réorganisé ? Que signifie désormais cette universelle réflexion critique ? Il est grand temps de la jeter par-dessus bord. » En France, le professeur de philosophie a été rattaché plus modestement, d'une façon directe dans les lycées, indirect dans les facultés, à l'instruction publique, à la conscience sociale d'une forme soigneusement mesurée de liberté de pensée, disons pour être honnête, à l'établissement progressif du suffrage universel. De là, ce style de directeur ou d'objecteur de conscience, de là le rôle qu'ils aiment jouer de défenseur des libertés individuelles et des restrictions de pensée, de là leur goût pour le journalisme, leur souci de faire connaître leurs opinions et la manie de répondre aux interviews. En tout cas, on comprend qu'avec le rôle qui leur était dévolu, ce qu'ils enseignaient devait être une philosophie de la conscience, du jugement, de la liberté. Elle devait être une philosophie qui maintienne les droits du sujet devant tout savoir, la suprématie de toute conscience individuelle à l'égard de toute politique. Or voilà que, portés par les développements récents, de nouveaux problèmes sont apparus. Non plus quelles sont les limites du savoir ou ses fondements, mais quels sont ceux qui savent. Comment se fait l'appropriation et la distribution du savoir? Comment un savoir peut-il prendre place dans une société, s'y développer, mobiliser des ressources et se mettre au service d'une économie? Comment le savoir se forme-t-il dans une société et s'y transforme-t-il? De là, deux séries de questions. Les unes plus théoriques, sur les rapports entre savoir et politique, et d'autres plus critiques, sur ce qu'est l'université, en tant que lieu apparemment neutre où un savoir objectif est censé se redistribuer équitablement. Si ces questions venaient à être posées dans la classe de la philosophie, il est clair que sa fonction traditionnelle devrait être profondément transformée. Monsieur Guichard, fin de défendre la philosophie contre une intrusion d'étudiants qui n'auraient pas été formés à l'enseigner. En fait, il protège le vieux fonctionnement de la classe de philosophie contre une manière de poser les problèmes qui la rend impossible. Le piège de Vincennes, entretien donné au Nouvel Observateur par Michel Foucault, février 1970. On continue avec Plinio Walder Prado à propos de la publication aux éditions Ligne du principe d'université. Sur le au point 5, qui est un point où à la fois vous appelez à une forme de désobéissance civile qui est articulée à la question de la réinvention d'une nouvelle université, et vous donnez un point pour un programme possible, qui est pour vous, à votre avis, celui de reconnecter les humanités avec la recherche fondamentale. Parce qu'en France, selon vous, il y a une séparation forte, violente, entre les humanités d'un côté et la recherche fondamentale de l'autre. Il y a également dans l'article de Yves Citon dans la Revue internationale des livres et des idées, en citant Oscar Necht, où il en appelle à intégrer l'enseignement dans la recherche, c'est-à-dire à greffer les savoirs acquis sur une activité à son tour productrice de savoir. Il est vrai qu'en France, les étudiants ne produisent du savoir qu'à partir du master. Alors que, peut-être dans ces universités en tout cas, et qui restent malgré tout effectivement comme le tunnel élitiste, elles ont réarticulé la question du savoir avec une production du savoir très tôt. Et ce, dès les premières années.
Bon, la désobéissance civile, vous l'avez souligné en commençant, la désobéissance civile, il y a plusieurs endroits maintenant, on en appelle parce que, à cela, parce que nous avons beau avoir raison, je pense qu'il y a beaucoup de travaux qui ont été faits, d'analyses qui ont été établies, et montrent que nous avons raison par rapport aux inquiétudes concernant l'avenir de l'université. Nous avons donc beau avoir raison, on a en face un pouvoir complètement sourd qui affiche une sourdité et un mépris. Et au même moment où nous sommes en train d'argumenter, ils continuent à produire et à faire voter leurs décrets. Donc je ne vois qu'une issue, comme beaucoup de gens, qu'une issue, c'est-à-dire qu'on commence donc aussi dans l'action, dans la pratique, à déjouer ce qui décide sur notre dos et à notre compte. Il n'a pas d'issue là-dessus. C'est la seule riposte. On nous sommes acculés à cette riposte-là. On n'est pas dans une situation de dialogue. On est dans une situation où des lois sont imposées. Dans un contexte très particulier, que le contexte français actuel d'une grande hégémonie de l'UMP. La désobéissance civile, avec tous ces arguments qui la fondent, et qui font qu'aucun être humain n'est tenu de souscrire à une loi quand il s'avère que cette loi est injuste. Donc je pense que là, je souscris tout à fait à cet argument, comme quoi il est beaucoup plus important. Ça passe en premier lieu le fait d'être un être humain, et la question du citoyen ou du sujet de l'État est une question secondaire par rapport à la question de l'humain. Et c'est pour ça que là, je pense que nous avons le devoir de désobéissance. Nous sommes obligés, c'est une obligation éthique et politique de désobéir actuellement. Je sais que c'est dangereux de dire ça aujourd'hui. Hein. Là, on voit bien que si ce n'est pas le totalitarisme, en tout cas, c'est un autoritarisme assez brutal. Chaque fois que je dis ça, je sais que c'est dangereux, telle est la situation dans laquelle nous vivons. Mais il faut le dire, il faut, sans un minimum de courage, on ne peut pas avancer. Mais quand je dis humain, c'est-à-dire l'être humain, le primat de l'être humain, de la dignité humaine, disons, par rapport à la condition des citoyens et des sujets d'un État, je mets déjà l'accent sur la question des humanités. Donc là, ça rejoint le deuxième point de votre question. Les humanités sont, depuis l'origine, que je rappelle, c'est une origine qui remonte aux écoles philosophiques de l'Antiquité et qui ont un regain avec, par exemple, Cicéron et puis les humanités modernes avec Montaigne. Montaigne, je crois que c'est un immense penseur incontournable dans ce dossier des humanités. Les humanités ont pour enjeu la formation de l'humain. Moi, j'ajoutais l'humain dans un sens que je pense que, parce que nous parlons quand même après Freud et après la littérature moderne, donc il ne faut jamais oublier que quand on dit humain, il faut aussi accueillir au sein de l'humain quelque chose qui n'est pas humain. C'est-à-dire, il n'y a d'humain que pour autant que l'humain est apte à accueillir ce qui en lui est un excès. Qu'on peut appeler donc inhumain, puisque c'est plus qu'humain dans l'humain. Donc, pas d'humain sans cet excès-là, sans l'écoute de cet excès-là, l'élaboration de cet excès-là, ce que nous avions appelé ailleurs les No Man's Land avec Nina Beberova. Donc les humanités, mais des humanités ouvertes sur cette question de l'inhumain ou de No Man's Land ou de l'excès. Mais les humanités ont donc toujours eu pour enjeu de former à cela, élaborer cela. Or, la grosse difficulté qui est déjà repérée parfaitement par Montaigne, c'est que la technologie, la science moderne tend à former que des savoirs opératoires. C'est-à-dire qu'on tend à former des main-d'œuvre, des savoir-faire, des compétences opératoires. Et cela n'implique à aucun moment la formation humaine au sens noble du terme. Or, l'université, jusqu'à très récemment, avait encore pour tâche de s'occuper de la formation humaine et de ne pas être réduite à cette production de compétences opératoires. C'est évidemment ce que le gouvernement cherche aujourd'hui, à rabattre la formation humaine sur la compétence opératoire. Donc, encore une fois, la question du temps, est-ce qu'on n'aura plus de temps pour s'occuper de soi et de son No Man's Land, mais on s'est dressé de plus en plus tôt à une formation opératoire, à une professionnalisation, comme on dit, pour faire... Bref, je pense que c'est une question grave, parce que on est dans une époque où on a de plus en plus de pouvoirs techniques, technoscientifiques, technologiques, et si cette augmentation des puissances n'est pas accompagnée d'une formation humaine raffinée, on peut aller vers les pires. Je veux dire que le savoir opératoire ne transforme personne, n'améliore personne. Il rend simplement plus efficace. Mais l'efficacité n'a rien à voir avec l'éthique, avec la culture, avec l'esthétique, avec la sensibilité. La preuve, c'est qu'on a eu, pendant la Deuxième Guerre mondiale, on a eu une bonne dizaine de prix Nobel en chimie qui étaient nazis, qui ont utilisé leur savoir pour gazer 6 millions de personnes. Donc là, on voit qu'il ne suffit pas d'avoir une compétence opératoire, il faut aussi avoir une formation humaine. Et c'est cela, à mon avis, qui est, dont on ne veut plus rien savoir. On ne veut plus rien savoir dans notre époque, celle de la culture du résultat, de la culture du succès. On n'a pas le temps, dit-on, à perdre avec la question de la formation humaine. Et c'est là où on peut aller, je pense, vers une barbarie. C'est ce que j'ai dit à la fin du livre, qu'on peut aller vers une barbarie. Nietzsche avait déjà dit, j'avais déjà parlé dans les livres que j'ai cités en commençant sur l'établissement d'enseignement à venir, il avait déjà parlé à la fin de son texte d'une barbarie cultivée, une barbarie au sein de la civilisation. On n'oppose plus les barbares et les civilisés, mais il y a des barbares, disons, très industrialisés, hein, des barbares gestionnaires, des managers barbares. Et la menace, à mon avis, passe par là.
Peut-être pour terminer, et puisque vous enseignez la philosophie, que vous êtes enseignant, vous êtes pris dans des rapports avec les étudiants, il y a cet argument qui dit que en fait il s'agit d'une demande de la part des étudiants à un enseignement qui vise l'efficacité et l'utilité. Et qu'est-ce que ça veut dire si cette demande est là, enfin comment du coup la contrer, c'est-à-dire la déconstruire. Donc voilà, est-ce que cette demande-là des étudiants, elle est réelle? Bon, peut-être qu'en département de philosophie moins, mais elle peut quand même malgré tout exister.
Oui, c'est une vaste question. Il faudrait peut-être s'appuyer sur des études sociologiques. Je peux dire simplement, par rapport à ma petite expérience, les étudiants à qui j'ai affaire, comme je dirige les masters, je vois beaucoup d'étudiants qui viennent d'un peu partout, de l'Europe, de l'Amérique, de l'Asie. C'est un peu particulier en philosophie, effectivement. Moi, je dirais deux, trois choses. Je pense que s'il y a une demande d'efficacité, cette demande, c'est une demande... Il faudrait s'interroger sur son origine. D'où vient cette demande? Parce que c'est une demande qui est, à mon avis, imposée par la société. C'est-à-dire qu'il y a, je dirais... Ça, j'ai constaté et j'ai suivi de près... Plusieurs étudiants, j'ai eu la chance de connaître quelques étudiants ingénieurs remarquables qui sont en rupture avec la demande d'où ils sont issus et qui se sont tournés vers les sciences humaines, vers la philosophie, soit vers l'art. Mais on voit très bien qu'il y a, je dirais, un dispositif social dont font partie les familles et les ministres qui vise à canaliser les étudiants vers les orientations à but d'efficacité. Et ça, c'est assez étonnant. J'ai dû m'affronter à des familles, et peut-être je finirai par m'affronter à des ministres, ne voulaient surtout pas que leurs enfants commencent à interroger cette demande d'efficacité qu'ils formulaient au départ et commencent à se poser des questions au sujet de qu'est-ce que j'ai fait de ma vie, qu'est-ce que c'est qu'une vie qui vaille la peine, est-ce qu'il ne vaut pas mieux être accompli tout en gagnant moins, et ainsi de suite. Et donc, je crois qu'il faudrait interroger. Il y a sûrement une demande d'efficacité et de consommation, comme vous dites, mais elle est largement programmée. Disons que le monde aujourd'hui parle comme ça, c'est-à-dire compétitivité, efficacité, narcissisme, succès, performance. Et les gosses, je peux dire, ils arrivent en parlant comme ça. Mais après, il y en a qui se ravisent et qui commencent à interroger cela. Donc, quand on parlait de mobilisation totale, c'est ça aussi. C'est-à-dire que le gouvernement a besoin de main-d'œuvre. Efficace dans un certain nombre de filières, économie et gestion, comme dit le président. Et donc, il s'agit de détourner les enfants de la nation vers ça. Or, il y a beaucoup d'enfants de la nation qui veulent plutôt faire de la musique, faire du théâtre, faire de la poésie, faire du cinéma, faire de la philosophie, être écrivain. Et donc, j'ai toujours vu fonctionner un dispositif, disons, familial-ministériel qui contraint lourdement vers cela. Et à côté de cela, je pense qu'il y a une demande de philosophie, quand même. Je pense qu'il y a une demande de philosophie. J'ai tenu pendant 10 ans un atelier de philosophie qui ne délivrait aucun diplôme, avec plusieurs séances par mois, pendant 10 ans. Et il y avait un public très diversifié, des professions libérales en général, mais des étudiants aussi, des jeunes, des chômeurs aussi. Il y avait des jeunes patrons qui venaient avec des ex-chômeurs. Et tous ces gens-là venaient pour discuter de la philosophie. Par exemple, on a travaillé pendant un an sur un texte de Foucault qui s'appelle « Au-delà du principe du plaisir ». Et il y avait cette population-là. Et cette population était en demande. Et cette population, elle existe. Elle est en demande de philosophie, c'est-à-dire que ce sont des gens qui se pose des questions des fins, hein, des finalités. Hein. Quelles sont les finalités de mon métier? Quelles sont les finalités de mes études? Comment je peux élaborer tout cela? Et ces gens-là étaient dans une demande de philosophie. Que cette demande, on essaie de l'étouffer, hein, que l'establishment essaie de l'étouffer, ça c'est clair, que la loi en vigueur, tout ça, essaie d'étouffer cela, ça c'est évident. Il n'empêche qu'il y a une inquiétude là. Il a une inquiétude par rapport aux finalités des professions, par rapport au mode de vie qu'on mène, par rapport aussi aux nouvelles exploitations scientifiques, par rapport à la génétique. Donc il y a des doutes, il y a des angoisses même. Et cela s'est traduit par une demande d'un outil qui vient de la philosophie pour élaborer tout cela.
C'était un entretien avec Plinio Wilder Prado, philosophe, à l'Université Paris 8, Vincennes-Saint-Denis, à propos de la publication aux éditions Ligne du principe d'université. À bout de souffle.
Je pense qu'en partie, tout Beckett pourrait être résumé par une des phrases dans un texte où il dit
audioblog.arteradio.com
Terre ingrate,
slash,
mais pas totalement.
Tiré.
Et tout est dans les pas totalement.
Bout.
Et il va jusqu'au bout de l'ingratitude de la terre.
Tiré.
Pour toucher
de
le pas totalement.
Tiré. Souffle.